Vous écoutez l'épisode numéro 5 du Saint-Pierre avec David Dufresne. Mon nom est Éric Saint-Pierre, musicien, amoureux d'entrepreneurship. Chaque semaine, je rencontre des personnes qui portent leur passion au bout de leurs bras. Mon objectif au travers de ces épisodes est que leur inspiration vienne à vous. Alors, sans plus tarder, je vais laisser leur message vous éclairer et que la messe commence. Bienvenue à ce cinquième épisode en collaboration avec baronmac.com, votre contenu quotidien sur les affaires, le design, la culture d'ici d'ailleurs. Et n'hésitez surtout pas à aller suivre baronmag.com sur Facebook, Twitter ou Instagram. Cette semaine, j'ai eu la chance de rencontrer David Dufresne, qui a un background assez particulier. Je dis ça parce que c'est le genre d'entrepreneur qui a vu les deux côtés de la médaille. C'est-à-dire qu'il a travaillé autant du monde du côté des VC qu'il a été lui-même entrepreneur en s'impliquant chez Bandzoogle, qui est finalement une plateforme où est-ce que les artistes peuvent créer eux-mêmes leur site web, spécialement en fait pour le marché de la musique. Il a aussi travaillé chez Bandcamp, qui est probablement l'un des sites les plus réputés dans le domaine de la musique pour promouvoir et monétiser la musique des artistes. Récemment, David a rejoint à nouveau le domaine des VC avec 500 Startup. On a parlé bien sûr du monde du venture capitaliste, avant la crise du dot-com, qui est vraiment intéressant, avant 99, du marché de la musique, comment les entreprises aujourd'hui fonctionnent avec le télétravail et évidemment, bien sûr, de 500 Startup. Donc, c'est avec un très grand plaisir que je vous laisse avec David Dufresne. Par contre, un petit bémol, je veux juste vous dire, on entend très bien dans l'entrevue, David, tout le long de l'entrevue. Par contre, moi, on dirait que j'ai l'air dans une autre pièce. On m'entend bien quand même, je suis audible, mais tout de même, voici David Dufresne.
Ben oui, ben merci Eric de m'avoir invité à ton émission. Ben David Dufresne, moi, présentement, je suis en train de faire un retour dans le capital de risque. Fait que peut-être pour faire une histoire courte, j'ai commencé ma carrière en capital de risque. J'ai commencé en 2001. Puis j'ai passé 8 ans à ce moment-là là, dans deux firmes différentes. Desjardins Capital de risque, où j'ai commencé ma carrière. Ensuite, j'ai travaillé pour une firme qui s'appelait JLA Ventures, qui s'appelle maintenant Relay Ventures. On faisait plus des investissements dans le web et dans le mobile. Ensuite, j'ai sauté la clôture, puis je me suis tout de suite joint. Je voulais partir à ma propre startup, mais à la place, je me suis joint à un startup qui s'appelle Bandzoogle, qui est une plateforme de site web pour les musiciens où il y a encore là, à peu près 25 000 clients qui sont des groupes de musique, des musiciens qui construisent leur site web, vendent leur musique, managent leur mailing list, des choses comme ça. J'ai passé 5 ans avec cette compagnie-là. On a une belle croissance, une compagnie très profitable. Après 5 ans, je suis parti. Puis pour un an, j'ai travaillé comme consultant à temps plein pour Bandcamp, qui est une plateforme assez bien connue, là, du moins au Québec. Une plateforme de commerce. J'ai aidé Bandcamp avec tout ce qui était stratégie et croissance pendant un an. Puis là, ben, récemment, je suis en train de faire un retour dans le capital de risque avec 500 Startups Canada, qui est un nouveau fonds de capital de risque au seed stage. C'est-à-dire, on investit dans des très jeunes compagnies. On est lié à un groupe qui s'appelle 500 Startups, qui est présent un peu partout dans le monde. Puis c'est ça, on va faire plusieurs investissements au Québec, au Canada. Fait que ça, c'est mon nouveau rôle.
Good. Donc, assez gros dans le monde du VC et de la musique, comme on l'explique. Est-ce que tu peux parler un peu en fait, de tes débuts entrepreneuriales? Je pense que tu as commencé assez jeune. Je me souviens bien, tu avais l'appel quand même.
Oui, ben, mes parents étaient entrepreneurs. En fait, mes parents étaient optométristes, puis ils possédaient leur propre clinique d'optométrie. Puis même à un moment donné, ils ont grossi ça à 3 puis à 4 cliniques dans la région de Trois-Rivières, d'où je viens. Fait que j'ai grandi un petit peu là-dedans, puis ça a orienté mes choix aux études. J'ai étudié en administration finance. Puis ensuite, quand j'ai fait une maîtrise, je me suis beaucoup intéressé à l'innovation. Qu'est-ce qui poussait des entrepreneurs à innover? Puis c'est là que j'ai compris un peu le rôle du capital de risque. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur ce sujet-là. Fait que c'est ça qui m'a poussé à travailler avec beaucoup d'entrepreneurs pendant ma maîtrise en recherche. Puis ensuite, aller travailler en capital de risque là, quand j'ai eu fini tout ça.
OK. J'ai beaucoup d'insister sur le mot « innovation ». Est-ce que tu peux me donner ta définition du mot « innovation »?
Oh, ma définition du mot « innovation ». Ben, dans le fond, « innovation », moi, je trouve que c'est des, tu sais, je pense que je lis souvent au risque. C'est des gens qui sont prêts à prendre des risques, à créer des produits et des technologies pour amener des nouvelles solutions à des problèmes qui existent, à des problèmes que les gens vivent. Fait que, tu sais, comme c'est des solutions, des technologies qui souvent n'existent pas, c'est des choses nouvelles. Ça peut être des technologies ou simplement une nouvelle façon de faire des choses, un nouveau modèle d'affaires. Souvent, c'est pas finançable par les modes traditionnels, les modes bancaires. Fait que ça prend des gens qui connaissent mieux ces milieux-là, qui sont prêts à prendre des risques. D'où l'attrait, d'où le rôle du capital de risque. Enfin, c'est ça, je sais pas, je réponds à ta question.
Non, c'est bon. Il y a plusieurs définitions, ouais. Et on voit aussi souvent, spécialement dans les dernières années, cette vague, l'innovation, c'est la technologie, c'est les applications mobiles, c'est... Mais personnellement, c'est comme, je vois de plus en plus des gens qui définissent l'innovation comme quelque chose de beaucoup plus personnel. Ben, pas personnel, mais en fait... C'est quelque chose en fait, qui vient d'une personne.
Oui. Ben, de plus en plus, les technologies, ce qui est le fun, c'est que les technologies sont disponibles, sont accessibles à tous. Puis, tu sais, maintenant, ça dépend toujours dans quel domaine tu es, mais de passer une idée à un produit, des fois, ça se fait un week-end, tu sais, quand tu vois des hackathons et des choses comme ça. C'est sûr que dans la réalité, pour ensuite passer d'un produit puis construire une compagnie puis faire quelque chose qui va rejoindre plusieurs gens, ça reste plus compliqué, mais effectivement, tu sais, aujourd'hui, quelqu'un qui a une idée innovante peut rapidement la mettre en œuvre sans nécessairement avoir besoin d'une grosse équipe ou de millions de dollars tout de suite en partant.
Parlant de banque et qui, en fait, des produits qui aident un grand nombre, parlons un peu de Benzugo. Est-ce que tu peux me dire un peu comment c'est arrivé dans ta vie, Benzugo? Parce que tu es un fan de musique, ouais. Tu es un fan de technologie et tu es un fan de startup. Le mix parfait pour David
Dufresne. Oui, tout à fait. Puis quand je suis, tu sais, en capital de risque. Puis mon idée initiale, c'était de partir mon propre startup dans la musique. J'avais une idée, c'était un peu un modèle de crowdfunding pour les musiciens. Puis je me cherchais un cofondateur technique. Puis je suis tombé, plutôt que de trouver un cofondateur puis de lancer ma boîte, je suis tombé sur un gars qui s'appelle Chris, qui lui avait fondé Benzugo quelques années auparavant. Puis il avait déjà une belle croissance, une bonne base de clients, une petite équipe. Puis lui, c'était à l'inverse. Lui, c'était un gars de produit, un gars technique qui cherchait un partenaire business. Puis il aimait beaucoup mon projet. On s'est bien entendu tout de suite en partant. Fait qu'on a décidé de travailler ensemble. Fait qu'effectivement, moi, je tombais dans un rôle dans une compagnie en musique qui était une de mes passions. Une compagnie web, le web, une autre de mes passions. puis moi, j'étais un gars d'affaires. Effectivement, ça a très bien tombé. Puis ça a été une super belle histoire. On est toujours resté bootstrap, comme on dit. La compagnie était rapidement profitable, fait qu'on n'a jamais pris d'investissement externe. Ce qui faisait le côté positif de ça, c'est qu'on était libre de grossir à notre rythme et de prendre les décisions qu'on voulait. Le downside de ça, c'est qu'on avait des moyens limités. Mm-hmm. On réinvestissait seulement nos profits, fait qu'on a eu une belle croissance organique. Après 5 ans, moi, par exemple, j'étais prêt à aller plus vite, puis à faire d'autres choses, puis à accélérer. Chris était plus dans un mode plus conservateur, puis c'est bien correct. Là. Lui, il voulait plus préparer la suite des choses pour lui. Il ne voulait pas prendre trop de risques dans la compagnie. Fait que moi, j'avais fait un peu ce que je pouvais faire avec la compagnie. Puis, fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller faire d'autres choses. Puis rapidement, j'ai eu l'opportunité avec Bandcamp, qui était une compagnie que je trouvais très intéressante, basée à San Francisco, qui rejoignait des centaines de milliers de bands, puis des centaines de milliers de fans. Puis j'étais de ceux-là, fait que j'ai pu travailler avec une compagnie là, qui est un produit que j'utilisais presque tous les jours en tant qu'amateur de musique. Une compagnie aussi qui a un sens éthique très, très fort, qui vraiment a à cœur les musiciens avant les propres profits de la compagnie ou les revenus de la compagnie. Fait que ça a été une super belle expérience.
Il y a un parallèle entre les deux, entre Bandcamp et
Benzugo.
À l'effet que dans les deux, tu as connu en fait le télétravail.
Ouais.
Benzugo était monté un peu, il n'y avait pas vraiment de bureau fixe. Puis Bandcamp a des bureaux fixes, mais tu as aussi connu l'expérience télétravail. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'expérience télétravail? Comment monter une compagnie? Comment tu as réussi à monter une compagnie en fait, finalement? Puis
tout le monde travaillait de chez eux un peu?
Ouais, dans le cas de Bandzoogle, c'était complètement remote, comme on dit, là, ou complètement... Les gens disent virtuel, j'aime pas tellement le mot virtuel, parce que c'était une vraie compagnie avec des vrais gens, puis des vrais revenus, puis des vrais profits, puis des vrais clients. Mais il n'y avait pas de bureau physique pour Bandzoogle. Fait que tout le monde travaillait online, la plupart de la maison, où il y en a qui prenaient un bureau dans des espaces de coworking, des choses comme ça. Il y en a même des fois qui... T'sais, on a un employé un donné, qui est parti 3 mois en Colombie pour voyager, puis il avait allégé un peu son horaire, mais il travaillait de là-bas avec le reste de l'équipe comme tout le monde. Fait que, tu sais, quand tu fais ça, c'est sûr que ça prend des bons outils, des bons processus, parce que tout le monde est à distance, puis il faut embaucher les bonnes personnes. Ça prend des gens qui sont autonomes, puis qui ont une motivation interne, puis qui n'ont pas besoin nécessairement d'être entourés de collègues, puis d'être dans un bureau où ça bouge pour pouvoir faire le travail. Fait que l'embauche est peut-être des fois plus difficile, ou il faut être plus prudent, parce qu'il faut vraiment aller chercher des gens qui recherchent le lifestyle-là, puis sont capables de travailler comme ça. Mais ce qui est le fun, c'est une fois que tu les as, ben là, tu peux trouver la bonne personne, peu importe où elle est. Fait que, tu sais, dans un cas, on avait trouvé le lead designer de la compagnie. C'était un gars qui vivait dans une petite ville au Vermont, puis, tu sais, qui probablement aurait fait le double de son salaire s'il avait été dans une plus grande ville. Mais lui était super intéressé à travailler avec nous, parce que ça lui permettait de garder son style de vie dans une petite ville, de voir ses enfants régulièrement, puis fait que c'est le fun. Fait que ça permet de trouver des gens que tu pourrais pas trouver d'autre façon, mais il faut faire attention, bien s'entourer. Tu sais, on faisait aussi une fois par année, on amenait tout le monde, puis on faisait un meeting annuel avec les gens, leur famille. Puis ça, c'est super important aussi, d'au moins une fois par année, que les gens se voient de façon physique, apprennent à se connaître comme ça. Ça facilite tout le reste de l'année et le reste du travail. Chez Bandcamp, c'est un petit peu différent, parce qu'il y avait, mettons, un headquarters, hein, une maison mère ou un bureau qui est à San Francisco, où peut-être un tiers de l'équipe travaille de là. Le reste de l'équipe travaille de façon remote, soit dans certains cas, par exemple, on a 6 ou 7 employés qui travaillaient à Victoria, en Colombie-Britannique. Bien, eux travaillaient ensemble dans un espace de coworking. Fait que ça amène un autre niveau de challenge, parce que des fois, ben, tu as des conversations. Puis définitivement, moi, c'était quelque chose que j'ai trouvé difficile en travaillant de chez moi à Montréal. J'allais à San Francisco de temps en temps, mais souvent, il y a des conversations qui se passent dans les couloirs, ou dans des lunchs, ou dans des petits 5 à 7 que l'équipe fait. Puis là, quand tu es à distance, tu fais pas partie de ces conversations-là. Fait que faut trouver des façons d'adapter ça, tu sais, même. Puis l'équipe était bonne, parce que même la plupart des conversations au bureau là-bas se faisaient par Slack. Ouais. Comme ça, on était capable de voir, tu sais, quand c'était pertinent pour le reste de l'équipe. Ben, on était, même si c'était 2 personnes qui étaient assis face à face, ils se parlaient par Slack, ce qui permettait d'avoir une trace pour toute l'équipe. Fait que c'est ça, même chose, tu sais, ça permet de... Surtout une compagnie qui est basée à San Francisco, ou même présentement à Montréal, d'avoir des bons développeurs, par exemple, c'est très difficile. Fait que quand tu es capable de travailler remote, d'avoir une partie de l'équipe qui travaille remote, ben, ça te permet de trouver des bonnes ressources plus loin, des fois pour moins cher.
L'évolution des outils de travail, parce que Bandzoogle, c'est une compagnie qui était fondée, qui était rentrée en
2010. La compagnie avait été fondée en 2000... Attends, je ne vais pas te compter de mensonge, là, mais en 2003, je pense. Puis, tu sais, c'était une compagnie qui existait déjà, là. Mm-hmm. Non, c'est pas vrai, 2000. En tout cas, tu sais, c'est une compagnie qui existait déjà depuis quelques années, mais la compagnie était fondée en 2010.
Ouais.
Ben, c'est ça. Moi, je suis arrivé en 2010, excuse-moi.
C'est ça, ouais, mais de 2010 à 2015.
2015, ouais.
Les outils de travail ont changé. Slack est arrivé, ça fait 3 ans, je pense.
Ah, tout à fait, tu sais, en fait, chez Bandzoogle, on utilisait Flowdoc. Okay. Qui est un compétiteur de Slack, puis qui est arrivé un petit peu avant Slack. Mais tu sais, avant ça, c'était Skype, puis avant ça, c'était chat par IRC. Fait, oui, effectivement. Puis même chez Bandcamp, pour te dire, l'équipe travaille encore beaucoup avec un wiki.
Okay.
Tu sais, la plupart des documents, c'est pas sur Google Docs, c'est utilise encore un wiki. Ça a été une adaptation pour moi, parce que moi, j'avais jamais travaillé comme ça avec un wiki. Mais le reste des communications puis de l'échange se fait par Slack. Fait que oui, les les outils de communication évoluent beaucoup. Mais en même temps, quand tu changes d'outil à l'intérieur d'une compagnie, ça bouleverse un peu tout le monde.
Ouais.
Fait que tu sais, dans le cas de Bandcamp, ils n'ont pas encore changé le wiki pour passer à, mettons, des Google Documents ou d'autres systèmes de travail parce que ça marche très bien pour eux. Puis tout le monde, l'équipe est habituée à ça. Puis toute l'historique de la compagnie sur le wiki. Fait que ça, faut adapter les outils qu'on utilise à la façon qu'on travaille.
Ouais, au workflow. Hein. Ouais. Parce que je trouve ça intéressant parce que. Chacun sa méthode de travailler, même dans un bureau, tu sais, pour avoir fondé moi-même ma compagnie, c'est comme on avait la misère à se communiquer des fois entre nous autres dans le bureau. Puis là, je vois ça, Bandcamp, Bandugo, deux entreprises que tu as faites, tu as été capable de faire beaucoup de remote work, puis, mais finalement, tu n'as pas utilisé les mêmes outils. Donc, c'est vraiment, en bout de ligne, c'est une question de personnalité d'entreprise, on sent quasiment.
Tout à fait. Je veux dire, puis c'est. Quand tu prends des décisions, ben tu testes tous les outils qui sont disponibles. Ensuite, tu impliques plusieurs gens dans différents rôles de la compagnie dans le test des outils. Puis après ça, tu prends une décision en équipe. Puis après ça, il faut pas reculer en arrière. Mm-hmm. Puis il faut s'assurer que tout le monde adopte. Puis chaque outil, Slack est un bel exemple. Slack, il faut que tu apprennes à bien t'en servir parce que sinon, ça peut devenir, comme on dit, overwhelming, ça peut devenir trop, mais il y a des petits trucs, puis tout ça, tu peux faire des intégrations avec les autres outils que tu utilises. Fait qu'on peut prendre des raccourcis là, pour ça simplifier la vie.
Good, good. Retournons un petit peu en arrière de tout ça, ces expériences-là, tes études.
Oui.
T'as fait un mémoire de maîtrise sur le VC.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait ma maîtrise, c'est une maîtrise à l'UQTR, à Trois-Rivières. C'est une maîtrise en gestion des PME et de l'environnement. Moi, j'ai fait un petit programme de maîtrise. J'ai fait cette maîtrise-là. Je travaillais en même temps pour l'Institut de recherche sur les PME dans le laboratoire de recherche sur la performance des entreprises. Et mon sujet de mémoire, ça a été de bien comprendre le capital de risque, puis ensuite de comparer les entreprises qui avaient reçu du capital de risque à celles qui n'en avaient pas eu. Pour voir comment elle se comparait. Est-ce que le capital de risque avait un effet sur le professionnalisme de l'entreprise? Est-ce que ça avait un effet sur sa performance? Un effet sur son niveau de risque? Fait que c'était super intéressant. Un gros travail statistique. On travaillait beaucoup à ce moment-là avec le groupement des chefs d'entreprise du Québec. Fait qu'on avait accès aux données de centaines de PME québécoises. Fait que ça a été un beau projet.
OK. Ça, c'est en quelle année que
tu as
fait cette mémoire?
Écoute, ma maîtrise, ça a été
en 1999-2000.
OK. Donc, juste le pré-dot-com? Ouais, c'était en même temps, c'était un contexte intéressant parce que c'était juste avant l'éclatement de la bulle. Puis après ça, j'ai commencé à capital de risque tout de suite après l'éclatement de la bulle. Là, ça a été une belle école.
Donc, ouais.
Les entreprises, par exemple, avec lesquelles on travaillait, c'était pas nécessairement des entreprises techno.
Mm-hmm.
Fait que c'était pas du capital de risque typique. Ça a eu un peu d'influence sur les résultats de mon mémoire. Mais tu sais, on travaillait avec beaucoup de compagnies manufacturières. Fait que le capital de risque qu'il y avait eu souvent, c'était des investissements plus du Fonds de solidarité du Québec, des choses comme ça. Fait que c'était peut-être pas la PME techno typique là, à laquelle on pense en capital de risque. Fait que c'était un petit peu différent dans ce contexte-là.
Mm-hmm. Je vais te poser des questions un peu plus larges.
Oui.
Je me demande en fait si j'aime beaucoup avoir dans la vie on passe par plusieurs étapes. Donc, tu as eu les grandes étapes, tu as eu les études, tu as eu Bandugo, tu as eu Bandcamp.
Ouais.
Je me demande en fait dans tout le cheminement, en fait, est-ce que tu as eu un moment où est-ce que tu as eu un genre d'épiphanie, un genre de haha moment que j'appelle, ou est-ce que tu as eu un éclair de vie? Une inspiration,
tu veux dire au niveau personnel?
Ouais, personnel, ouais. Puis on en a plusieurs généralement en vie, mais est-ce qu'il y en a un qui t'a pris en tête?
Ben, tu sais, je pense que tu t'en as parlé un petit peu tantôt, là, quand je me suis rendu compte chez Banzuro que j'étais dans un contexte où je travaillais dans une industrie, tu sais, où, dans le fond, on construisait des outils pour les musiciens, tu sais, pour améliorer la vie des musiciens, puis ultimement améliorer la vie de leurs fans, les amateurs de musique, puis ultimement faire que dans le monde, il y a la meilleure musique. Fait que, tu sais, à un moment donné, je me suis rendu compte, ben, je pense que c'est ça la vie, tu sais, c'est d'être dans un rôle, de se positionner dans ton travail. Tu sais, le travail, c'est quelque chose qu'on fait plusieurs heures par jour, qui prend une grande place dans notre vie. Fait que de se positionner dans un rôle où on a l'impression de faire une différence, dans un domaine qui nous intéresse, avec des gens à qui on est attaché, c'est hyper important. Fait que ça a été un petit peu ça mon épiphanie, de dire, ben regarde, le travail, là, c'est quelque chose qu'on fait pour les autres, mais aussi c'est quelque chose qu'on fait pour nous, mm-hmm. qu'on fait pour notre famille. Quand on a eu notre premier enfant, j'ai eu un gros choc, même à l'hôpital, quand j'ai vu le bébé sortir, de dire, oh là, c'est plus juste pour moi que je fais les choses, c'est pour les miens, c'est pour ma famille. C'est ça. Puis tu sais, aujourd'hui, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on essaie de créer avec 500 Canada, je trouve ça super intéressant parce que le but premier, c'est d'amener du rendement à nos investisseurs, mm-hmm. mais on va le faire en permettant à des dizaines d'entrepreneurs de vivre leur rêve puis de créer quelque chose qui va faire une différence pour eux puis pour les clients puis les utilisateurs qui veulent aller chercher. Fait que tu sais, de toujours regarder au niveau macro ce qu'on fait puis l'impact que ça peut avoir sur notre société, sur nos proches, sur la vie en général, mm-hmm. pour moi, c'est hyper important.
500
Startups Canada, ouais.
Explique-moi un peu le concept de ça, puis ton implication dans
le temps. OK, ben 500 Startups, à la base, puis tu sais, s'il y a des gens qui sont intéressés, le site web, c'est 500.co, 500.co. C'est une drôle de bébête. C'est un fonds capital de risque qui existe aux États-Unis. Qui a aussi créé des accélérateurs d'entreprise. Fait qu'il y a deux accélérateurs, un dans la Silicon Valley à Mountain View, puis un à San Francisco même, qui sont un peu comparables à des accélérateurs comme Founder Fuel ici à Montréal, mais peut-être un petit peu plus loin dans la vie d'une entreprise. C'est vraiment des accélérateurs qui sont basés sur la commercialisation. Fait que, okay. fait qu'il y a des, ils viennent d'avoir une cohorte qui faisait ses démonstrations hier. Des compagnies qui ont déjà un produit, qui ont commencé une commercialisation, puis là, veulent l'accélérer. Okay. Fait qu'il y a des accélérateurs, il y a d'autres programmes d'éducation aussi, puis il y a d'autres fonds de capital de risque associés à 500 Startups, qui sont dans certains cas des fonds spécialisés, comme il y en a un en fintech, là, les technologies pour la finance, il y en a un aussi dans les technologies mobiles, et il y a des fonds spécialisés géographiquement. Fait qu'il y a un fonds, par exemple, en Malaisie qui couvre toute l'Asie du Sud-Est, il y a un fonds au Mexique qui couvre l'Amérique latine. Puis nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de créer un fonds au Canada qui va couvrir le Canada. Fait qu'on est, d'une certaine façon, on est indépendant de 500 Startups, mais en même temps, on est lié parce que les 500 Startups, c'est un de nos commanditaires qui investit dans le fonds. Puis, on travaille avec cette équipe-là pour une partie de notre back-office, mais ça va servir beaucoup à nos compagnies, les compagnies dans lesquelles on va investir. On va avoir accès au réseau de 250-300 mentors de 500 Startups. Puis, il y a déjà 1500 compagnies, en fait, dans le portefeuille, dans les différents portefeuilles de 500 Startups. Fait que nous, on va être connectés à tous ces gens-là. Ça va être, ça va apporter beaucoup de valeur. Fait que l'équipe qu'on a présentement, on a trois managing partners, un à Calgary, un à Toronto, un à Montréal. Ensuite, on a deux partners qui sont un peu comme des partners plus juniors, je dirais. Puis ça, ben il y a moi à Montréal, puis il y a une fille qui s'appelle Neha à Toronto. Puis à Montréal aussi, on a embauché un associé qui s'appelle David Bureau. Fait qu'on est une petite équipe de trois à Montréal avec une équipe là, qui va être 7 ou 8 personnes plus globale au Canada.
Good. Faire un startup, ça veut-tu dire qu'ils en cherchent 500 ou c'est juste
un
tag name?
C'est juste un tag name. Le branding au départ, c'était de dire oui, on va investir dans 500 startups. Okay. Puis ça a commencé aussi en 2010, ce qui était très ambitieux. Tu sais, puis le modèle de 500 startups, puis maintenant, ça a déjà dépassé. C'est déjà 1500 mm-hmm. qui est dans lesquels il y a eu des investissements. Puis le modèle, c'est un peu différent des autres fonds de capital de risque. Souvent, les autres fonds de capital de risque, ils vont faire des plus gros investissements, mais on va en faire beaucoup moins. Puis ça va être un processus beaucoup plus lourd. Puis ils vont dire, OK, ben nous, on investit, on se spécialise dans la réalité virtuelle, par exemple. Puis là, ils vont construire la thèse d'investissement autour de ça. 500 startups fait plus d'investissements, mais plutôt dans la vie des compagnies. Fait que c'est un peu ça. Le branding, c'est de dire, ben, regarde, on investit dans beaucoup de startups, puis on les accompagne jusqu'à un certain point, puis on sait que dans toutes celles-là, il y en a qui vont devenir des gros succès.
Comment tu fais pour flairer le succès d'une entreprise?
Ben c'est moi, ce que je regarde en premier, c'est l'entrepreneur ou l'équipe d'entrepreneurs. T'sais, c'est vraiment de travailler. Dans notre cas, on va commencer par l'entrepreneur. C'est des entrepreneurs qui sont passionnés, qui sont intelligents, qui comprennent bien leur domaine, qui ont une certaine expérience, qui est pertinente à ce qu'ils veulent faire. En deuxième, on regarde leur projet. Puis moi, ce que j'aime voir, c'est des projets qui règlent un vrai problème, des solutions amenées à des vrais problèmes qui existent pour de vrai. Parce que souvent, il y a un paquet de belles idées qui peuvent être des choses le fun, mais qui ne seront pas nécessairement quelque chose qui va avoir un impact assez important sur assez de gens pour dire ben les gens vont être prêts à payer pour la solution que tu amènes ou tu sais il y a quelqu'un quelque part qui va générer du revenu. Fait qu'on veut, en même temps, nous, notre spécialité chez 500, c'est qu'on veut des modèles, des technologies, ça peut être dans tous les domaines, mais on veut que ça utilise l'Internet, le marketing par Internet pour grossir. Mm-hmm. Fait que tu sais, on ne fera pas d'investissement dans des trucs qui demandent beaucoup de science puis ont besoin de 50 millions d'investissements pour faire de la recherche ou des trucs manufacturiers qui ont besoin de construire des usines. Ça, on n'est pas là. L'autre, on veut des idées qui peuvent être capital efficient, on dit en anglais, là, qui n'auront pas nécessairement besoin de beaucoup de capital pour potentiellement devenir des grosses compagnies qui ont une grande valeur.
Donc, c'est beaucoup le lean model, vous allez regarder ces entreprises qui ont besoin de 3-4 personnes clés pour faire grossir.
C'est ça.
Comme 500
personnes s'il faut, mais peu importe. C'est ça, éventuellement, on va être souvent à ce stade-là où la compagnie, c'est 3, 4, jusqu'à 10 personnes. Puis, ben, avec ça, ils sont capables d'aller chercher des clients puis des revenus. Puis, éventuellement, oui, peut-être ça va grossir des compagnies de 100, de 250 personnes. Mais tu sais, si tu regardes un peu ce qui se fait au Canada, là, notre objectif, c'est de trouver très tôt le prochain Shopify ou la prochaine start-up qui va faire une grosse différence, puis va devenir éventuellement une compagnie qui vaut des centaines de millions ou même au-dessus d'un milliard. Fait que c'est. Nous, on vise à les voir très, très jeunes dans leur cycle de vie, puis investir très jeunes. On va se tromper souvent. Mais notre objectif, c'est que les belles qui réussissent, on va faire partie de l'aventure.
Oui, le 6 ans, là, quand j'ai commencé ma compagnie, on parlait beaucoup, on cherche le prochain BlackBerry. On veut faire revivre BlackBerry à quelque part. c'est quand même un gros succès
qui a créé l'impact de BlackBerry connaît encore des années très difficiles.
Ouais.
Mais ça a quand même créé, la région de Waterloo ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si c'était pas de BlackBerry. Les gens qui sont passés par là ont créé un paquet d'autres compagnies. Il y en a qui sont devenus investisseurs. Fait que, tu sais, l'impact d'une compagnie comme ça est immense sur l'écosystème global.
Mm-hmm. David, tu es un gars très occupé. Je vais y aller avec une couple de questions éclairs.
Oui, super.
Rapidos, pour te laisser aller vers le reste de ta journée. Qu'est-ce qui t'inspire le plus en ce moment?
Ce qui m'inspire le plus en ce moment, je te dirais ce dont j'ai parlé tantôt, des entrepreneurs qui ont une idée puis qui passent d'une idée à un produit dans un temps record, puis ça m'inspire.
Intéressant.
On en voit de toutes les couleurs, de toutes les sortes, puis je trouve ça spectaculaire.
Okay. Dis-moi une ressource web qui change ta vie, qui te donne un peu comme similaire à Slack ou Evernote, que tu veux partager au monde, toi ça te donne un gros coup de main.
Je vais plugger mes anciens collègues, mais Bandcamp.
Oui.
Bandcamp, pour moi, la musique, c'est important. Puis Bandcamp, c'est une ressource exceptionnelle pour découvrir de la nouvelle musique. Fait que c'est une application que j'utilise tous les jours, plusieurs fois par jour. Le site web aussi est génial. Puis je pense que tout le monde est plus efficace avec la bonne musique.
Oui, absolument d'accord. Est-ce que tu étais un amateur des services streaming à Apple by Spotify?
Ouais, j'utilise Spotify un peu. Je trouve que c'est un très bon service. Malheureusement, c'est pas du tout positif pour les musiciens.
Ouais.
Fait que j'essaie autant que possible de les encourager directement, soit à travers leur propre site web ou à travers Bandcamp.
Ouais, parce que t'achètes l'album directement sur Bandcamp.
Fait que tu sais, Spotify, c'est intéressant pour la découverte ou c'est intéressant des fois si t'as le goût d'écouter une chanson que... je m'en sers des fois pour jouer de la musique pour mes enfants là, ou quand quelqu'un veut écouter de la musique que moi, qui n'est pas nécessairement ce que moi j'aime. Mais il faut que le modèle évolue pour que ça devienne un bon joueur dans l'écosystème de la musique.
Ouais, absolument d'accord avec toi. Est-ce que tu es un lecteur?
Un lecteur? Ouais, pas autant que j'aimerais, mais oui.
Est-ce qu'il y a un livre que tu pourrais recommander aux gens à lire pour... que ce soit une histoire vraiment politique, que ce soit vraiment inspirant, la vie de...
Ça fait longtemps que j'ai pas lu des bons romans. Un livre que j'ai beaucoup aimé, j'ai encore parlé de musique, mais un livre qui s'appelle « This is your brain on music
»,
qui date de quelques années, qui a été écrit par un professeur qui est PhD à McGill, mais qui est aussi un ancien producteur de musique, puis il va vraiment en profondeur dans la science de la musique. Pourquoi les gens aiment la musique, quel impact ça a sur notre cerveau, pourquoi on danse, pourquoi des choses comme ça. C'est hyper intéressant.
OK, good, good. On va lire ça. Dernière chose, avant de quitter, j'aimerais encore une fois te remercier de participer à l'émission. Pour moi, en fait, la raison pour laquelle je t'ai demandé de venir, c'est parce que tu fais partie de ces personnes-là pour moi qui m'inspirent, puis qui inspirent selon. Puis que c'est important d'entendre ta voix parce que je pense que tu vas pouvoir inspirer un autre paquet de gens. Puis en plus, ta contribution fait que d'autres entrepreneurs peuvent s'être inspirés et vouloir en fait vivre leur passion. Fait que, félicitations pour ce que tu fais, sérieusement. Donc,
merci, c'est gentil. Les gens ne le voient pas parce que c'est un micro, mais je rougis un peu là. Mais c'est moi, écoute. Puis moi, je te remercie de m'avoir invité encore une fois.
Là, j'ai une dernière question. C'est une question habituellement que je vois avec une grosse mise en situation, mais là, je vais y aller bien simple. Ouais. Là, t'as un panneau publicitaire quelque part que tu mets n'importe où ce que tu veux. Puis là-dessus, sur le panneau, t'écris trois vérités que tu sais qui sont absolument vraies. Trois choses que tu dis, là, comme si tu veux partager ça, tu dis « la vie, c'est ça » ou « whatever ». Trois choses que tu dis « je veux que ce soit le message de ma personne ».
OK. La première, c'est « don't take yourself too seriously ». Prenez-vous pas trop au sérieux. La deuxième, c'est puis je vais me servir un peu du slogan de 500 Startups. La deuxième, c'est « have fun ». Tu sais, je pense que la vie, il faut amuser, il faut découvrir des affaires, il faut goûter des nouveaux mets, écouter des nouvelles musiques, visiter de nouveaux endroits, rencontrer de nouvelles personnes. Amusez-vous. Puis la troisième, c'est « get shit done ». Ça veut dire passer aux actes. Parce qu'il faut être productif, il faut créer. Tu sais, peu importe ce qu'on fait dans la vie, ben, faut le faire. Faut pas juste en parler. C'est ça mes trois items.
Good, good. Get shit done. Get shit done. C'est ça, on va aller faire notre shit done. Bonne fin de journée. Merci pour la vie.
Merci, Eric.
Alors, c'est déjà tout pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Merci, David, parce que je sais que tu étais très occupé quand je t'ai rencontré. Et c'est la raison pour laquelle cette entrevue était très, très brève tout de même. Donc, bien sûr, je vous invite toujours à me suivre, à continuer à me suivre sur ma page Facebook, le Saint-Pierre.podcast. Vous pouvez aussi me rejoindre, en fait, sur mon site web, lesaintpierre.com. Toutes ces façons-là sont bonnes, puis même pour me laisser des commentaires, des suggestions, des personnes que vous voulez que je rencontre, peu importe. Je suis toujours, bien sûr, ouvert à avoir vos commentaires parce que, bien sûr, moi, ça me fait grandir, ça m'aide beaucoup. Alors, d'ici à la semaine prochaine, je vous invite à écrire vos projets, à les mettre en action, faire quelque chose, et comme David a si bien dit à la fin de l'émission, get shit done. Ok, lancez-vous, n'hésitez pas, ayez pas peur, allez-y, bonne semaine.